Christian Jambet.
Ce qui m'a frappé, quant à moi, c'est que cette dialectique maoïste renoue d'une certaine façon avec la dialectique platonicienne. En effet, dans le sophiste, dans le dialogue du sophiste, Platon indique bien que le réel, qui est contradictoire, qui est dialectique, est tissé d'opposition entre des aspects principaux et des aspects secondaires. Quand il essaye, par exemple, de définir le pêcheur à la ligne, la pêche à la ligne, il nous dit « la pêche à la ligne est une technique ». Or, toute technique se divise en deux. D'une part, les techniques de production, d'autre part, les techniques d'acquisition. Chaque technique d'acquisition, qui donc est l'aspect principal de la contradiction inhérente à la technique en général, chaque technique d'acquisition se divise à son tour en deux, entre échange et capture. Toute technique de capture se divise en deux. En effet, on peut capturer soit par la lutte, soit par la chasse, etc., etc. Autrement dit, quand on divise en deux le réel pour en saisir l'essence, on a toujours affaire à une dissymétrie entre des aspects non seulement opposés et différents, mais d'une certaine façon intotalisables. Et la dialectique platonicienne a cette caractéristique d'être ce travail de l'altérité, ce travail non seulement de la différence, mais d'une opposition qui manifeste une dualitude irréconciliable. Et Mao Tse-Tung se situe dans cette lignée de la dialectique où les dualitudes l'emportent sur l'unité, ce qui a pu faire penser à un dualisme ontologique fondamental chez Mao Tse-Tung. Et ceci s'oppose, à mon avis, à une autre lignée métaphysique qui s'origine chez Aristote, qui critiquera Platon sur ce point, pour qui les divisions peuvent toujours reconduire à une totalité, à la totalité d'une catégorie, même si, bien entendu, au-delà des catégories, l'être comme tel ne forme pas un genre unique. Il n'en est pas moins vrai que pour Aristote, de l'individu à l'espèce, de l'espèce au genre, il y a une sorte de continuité, d'architectonique, d'hiérarchie harmonieuse de l'être, qui permet de reconduire toutes les différences au fond, pourrait-on dire, univoque et uniforme de l'étang. Alors que de Platon à Mao Tse-Tung, l'étang n'est jamais uniforme, ne peut jamais reconduire à la plage ou à la plaine homogène d'un être monocolore, mais par contre, les divisions, le travail de la dialectique est toujours là pour nous rappeler l'irréductibilité du conflit. Autrement dit, l'ontologie est une ontologie du conflit. Et ceci me fait penser que nous avons affaire dans le maoïsme non seulement à une philosophie pratique, mais encore peut-être à un des derniers grands moments de l'ontologie et de la métaphysique.
Pèlerinage au mont Xinkang, 1965. Depuis longtemps, j'avais désir de toucher aux nuages en gravissant une fois le mont Xinkang. De mille lits, je suis venue à cette terre ancienne dont le vieux visage a pris des traits nouveaux. Partout chantent les loriots, dansent les hirondelles et courent l'eau en murmurant. De grands arbres trouent les nuages de leur tête. Passé les gorges de Yangyangshi, il y a danger. Ne vous penchez pas pour voir. Vents et tonnerres alors s'étaient mis en branle. Drapeaux et bannières vibraient d'enthousiasme. Le pays recouvrait son assise. 38 années depuis sont passées. Le temps d'un claquement de doigts. On peut monter jusqu'au 9e ciel pour embrasser la lune. On peut descendre dans les 5 océans pour prendre des tortues. Reviennent les dialogues joyeux et les chants de victoire. En ce monde, rien n'est difficile. Il suffit d'avoir la volonté de s'élever.
On se souvient peut-être des dernières images au ralenti, des ultimes poignées de main, Mao Tse-tung aux côtés de Nixon, de Pompidou, du Premier ministre de Singapour ou du Pakistan. Mao Tse-tung meurt le 9 septembre 1976, en plein dans une période de très forts tremblements de terre.
C'était Une vie, une œuvre, Mao Tse-tung par Gérard Gromaire.